c'est bon pour la santé.
Bonjour et bienvenue à C'est bon pour la santé. Ici Camille Chai, votre animatrice, en compagnie de mon cher co-animateur François Barbiel. Bonjour François.
Bonjour Camille.
En rafale, aujourd'hui, nos intervenants sont Annick Fillion, qui nous a mené un vox pop sur la dyslexie et la dysorthographie auditive. Myriam Daguzan-Bernier, elle, nous livre un coup de gueule qui s'intitulera « La performance ». Et Catherine Bourderon viendra nous faire sa chronique livre « Coup de cœur habituel ». Alors, on commence cette émission toujours en beauté, vous le savez, avec un sujet qui préoccupe certains parents au sujet de leurs enfants, la dyslexie et la dysorthographie. D'ailleurs, on a avec nous en studio Annie Tessier, qui a coécrit avec Prisca Poirier le livre « Dyslexie et dysorthographie, la boîte à outils » paru aux éditions de Mortagne. Et en seconde partie, on a la chance de recevoir la psychologue Edith Saint-Jean-Trudel qui, elle, vient nous parler du livre qu'elle a aussi coécrit avec une autre personne, Vanessa Germain. Et le livre s'intitule « 10 questions sur l'automutilation chez l'adolescent et le jeune adulte » paru aux éditions Midi 30. Bienvenue à vous tous et merci de passer cette heure avec nous. Et oui, vous le savez, pourquoi vous nous écoutez? Parce que ce qu'on vous présente, c'est bon pour la santé. Bonjour Annie Tessier.
Bonjour.
Bienvenue en studio.
Merci.
Alors, Madame Tessier, vous travaillez dans le milieu scolaire et vous êtes co-auteur, donc on l'a dit dans l'introduction, avec Prisca Poirier du livre « Dyslexie et dysorthographie, la boîte à outils » paru aux éditions de Mortagne. Pourquoi vous vous intéressez à ce type de trouble d'apprentissage?
Mais dans mon travail, c'est important que je connaisse bien ce trouble-là. C'est les élèves-là que je vais soutenir à l'école. Je dois avoir une façon de repérer leurs difficultés. Plus je cible bien leurs difficultés, mieux je peux intervenir auprès d'eux.
Mm-hmm. Et donc, votre livre s'adresse, j'imagine, aux parents?
Oui, aux parents et aux intervenants dans le milieu.
Et alors, qu'est-ce que la dyslexie et la dysorthographie?
Bien, tout d'abord, il faut savoir que la dyslexie, c'est un trouble d'origine neurologique, souvent génétique. Mm-hmm. Alors, quand on parle de trouble, on parle de quelque chose qui résiste à l'intervention, quelque chose qui va être persistant dans le temps. Les manifestations de la dyslexie, on parle d'une lenteur dans la lecture, dans la fluidité, une difficulté au niveau du décodage, mm-hmm. les mots sont pas tout à fait automatisés, une surcharge cognitive, des difficultés qui s'amènent des difficultés de compréhension. Et puis, c'est ça, la persistance des difficultés malgré les meilleures interventions reconnues par la recherche.
Mm-hmm. Excusez-moi, vous parlez de génétique, mais est-ce que vous voulez dire aussi héréditaire?
Oui.
D'accord. Donc, on le retrouve, on peut le retrouver, et on peut donc imaginer qu'il y a des troubles dysorthographiques et dysgraphiques chez les enfants dont les parents ont ces troubles.
Oui.
D'accord.
Oui, donc c'est un peu normal, en fait, ça peut être fréquent si le parent est conscient qu'il lui-même a ce trouble d'apprentissage, que son enfant l'ait aussi mm-hmm. par la suite.
Mm-hmm.
Et donc, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Comment ça se manifeste, par exemple, la dyslexie quand elle est à l'écrit? Quand, par exemple, avec vos élèves, quel genre de déformulation du mot est-ce qu'on peut retrouver pour avoir un exemple pour nos auditeurs?
Mais la dyslexie, le pendant de l'écriture, ça s'appelle la dysorthographie. Puis... par exemple, si un élève écrit un mot avec une séparation en plein centre, c'est qu'il ne reconnaît pas encore l'entité du mot. Par exemple, je faisais écrire un texte à une jeune fille de deuxième année dont j'ai une hypothèse de dyslexie. Et puis, elle écrivait le mot stagiaire en écrivant S-A-T-A espace G-I-E accent grave R-E. Alors, elle a séparé son mot dans le centre. Elle a fait d'autres manifestations de dysorthographie. Par exemple, elle écrivait « On te félicite de ton travail ». À la place d'écrire « ton », en fait, elle a écrit « don ».
OK, donc on inverse les lettres, les sons.
Elle inverse les lettres, mais on confond les sons aussi, le T et le D. Oui.
Là, c'est en fait au moment où c'est une technique d'apprentissage syllabique chez cette jeune fille.
Oui.
Et donc, elle fait des erreurs avec la technique syllabique.
Oui, c'est ça.
Et la technique globale peut entraîner aussi des erreurs de ce genre-là? La technique d'apprentissage de lecture globale.
La technique de lecture d'apprentissage globale, c'est une technique quand on reconnaît les mots d'un seul coup d'œil. Comme on ne peut pas tous les photographier, ça ferait une importante charge cognitive. On doit utiliser les deux voies, en fait, quand on lit et quand on écrit.
D'accord.
C'est intéressant.
On utilise les deux voies quand on lit et quand on écrit. Au début, c'est-à-dire à cet âge-là, quel âge a-t-elle, cette petite?
Elle a 8 ans.
Elle a 8 ans. Donc, à cet âge-là, normalement, on utilise les deux techniques.
Oui. D'accord. Par exemple, pour le mot « ami », le mot « dans »,« avec », c'est des mots qu'on ne peut pas nécessairement, si je pense au mot « avec », on peut l'écrire de plusieurs façons. Le mot « et », et qui ne se prononce pas du tout « et », même si c'est écrit « et », c'est un mot qui va être retenu globalement.
C'est ça, d'emblée globalement.
Presque acquis, quoi.
Oui.
Et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on peut faire la différence avec un lecteur débutant ou comme on peut les appeler les lecteurs experts.
Oui.
C'est bien parce que c'est quelque chose qui touche quand même tout le monde, la lecture, l'écriture. Tout le monde a une histoire à ce niveau-là, une facilité ou une difficulté quelconque. Mm-hmm. Et d'ailleurs, selon le DSM-5, ils disent qu'il y a de 5 à 15% des enfants qui présentent un trouble d'apprentissage.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous trouvez que c'est énorme? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est connu en général?
Bien, c'est de plus en plus connu. La dyslexie, on reçoit de plus en plus de diagnostics. Je pense que depuis les 15 dernières années, là, les gens sont mieux informés à propos de ce trouble-là. Une fois qu'on sait ce que c'est la dyslexie, parfois on ne sait pas quoi faire avec ça. Quand on est parent, on se sent impuissant devant le diagnostic de notre enfant ou seulement ses difficultés, sans même connaître son diagnostic. On veut pouvoir soutenir l'enfant, puis parfois on manque de moyens. C'est pour ça qu'on a trouvé la boîte à outils pour exprimer des moyens de soutenir.
Oui, et c'est vrai que c'est ce qu'on dit une boîte à outils, c'est réellement le cas parce qu'il y a tellement d'informations, de trucs auxquels les parents et les intervenants peuvent se référer. Vous donnez des exemples comme ce que vous venez de lire d'une étudiante, des exemples d'inversion des lettres ou de la difficulté dans la compréhension. Mais ce qui est riche, c'est que vous partagez des témoignages d'enfants qui eux-mêmes sont dyslexiques et qui racontent un peu leur vécu avec leur trouble d'apprentissage. Il y a même des témoignages de parents. Donc, c'est intéressant pour un parent, justement, qui commence à se poser des questions. C'est une très, très, très belle référence.
Oui, bien, on a été chercher des enfants et des adultes qui étaient aux prises avec la dyslexie. Puis, on voulait avoir différents groupes d'âge pour représenter un peu leur parcours scolaire. Il y en a pour qui l'orthographe était très important alors qu'ils étaient à l'école. Pour d'autres, il y avait déjà l'entrée des outils technologiques pour eux. Mm-hmm. Ils n'ont pas vécu nécessairement la même chose, mais pour tout le monde, ça a été un parcours difficile, là, l'école.
J'en doute pas. Et avant d'aller écouter un vox pop réalisé par Annick Fillon, j'aimerais vous demander quel est le meilleur moment pour un parent pour aller consulter un médecin?
Je vous dirais à partir de la 4e, 5e année.
OK.
Avant ça, il faut que le neuropsychologue puisse prouver que la rééducation n'a pas fonctionné. Si vous vous présentez dans un bureau pour avoir une évaluation alors que votre enfant est seulement en première ou deuxième année, bien là, à ce moment-là, c'est questionnable s'il met un diagnostic.
Oui,
parce
c'est trop tôt peut-être.
Oui, on peut pas voir s'il résiste à l'intervention.
Mm-hmm. Bien. Bon, écoutez, allons écouter le Vox Pop d'Annick Fillon sur la dyslexie et la dysorthographie auditive et on vous revient après.
Madame Ali.
Jayla.
Jenna, Angeline,
Francesca. Clarisse.
Carmen.
Je m'appelle Jeanne.
Geneviève.
Emile.
Adèle.
Thomas.
Maëva.
Mara.
Alexandra.
Félix.
Inuel.
Je m'appelle Dan.
Marianne.
Patrick.
Coralie.
Vicente.
Eminegul.
Anna.
Quand Cass a commencé l'école à la maternelle, évidemment que les professeurs sont habilités à détecter les signes de dyslexie. Et puis souvent, on peut s'en rendre compte à la maternelle, déjà avec au niveau de la motricité fine, découpage, coloriage.
Moi, je suis Josée, je suis la maman de Cass.
Puis dès la maternelle, c'était nommé. Et ensuite, quand elle est arrivée en première année, mais là, avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, bien là, on a vu là, qu'il y avait une certaine difficulté.
Donc, découpage, on parle de dyslexie, c'est habituellement c'est à l'écriture. Là, on parle de découpage.
Exactement.
Expliquez-moi dans ça. C'était pas sur la ligne ou...
Exactement. Encore aujourd'hui, là, malgré ses 22 ans, de tenir une paire de ciseaux, de faire un découpage précis, c'est difficile. Au niveau du coloriage, de garder les couleurs là, dans les formes. Donc, comme je disais, c'est souvent là, dans les premiers signes observés. Et puis ça, ben ça reste aussi. Parce que mon conjoint est aussi un grand dyslexique. Lui, il n'a pas eu de diagnostic, donc il a toujours été considéré comme celui qui ne comprenait jamais rien, à qui il fallait toujours réexpliquer plusieurs fois. On lui disait souvent, ben là, tu me fais perdre mon temps, ça fait 3 fois que je te l'explique, tu ne comprends pas, va à ta place. Donc lui, il a peut-être plus souffert de cette dyslexie-là parce que justement, ce n'était pas nommé, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Lui, il voyait qu'il n'arrivait pas à avancer au même rythme que les autres, mais c'est ça, sans diagnostic, sans savoir ce que toi, tu dis, ben pourquoi moi je suis différent, pourquoi les autres comprennent, puis moi je comprends jamais rien.
Par rapport à lire des textes, concrètement, là, ça donne quoi?
Ça donne que tu lis, mais tu n'as aucune idée de ce que tu viens de lire. Je m'appelle Cass et j'ai 22 ans. Donc, tu comprends vraiment pas, donc soit tu recommences, mais ça change rien parce que tu comprends juste pas. Peu importe combien de fois tu vas le relire, tu vas pas comprendre.
Est-ce que c'est parce que vous lisez plus lentement ou parce que vous attendez au son ou à décortiquer les mots?
Ouais, je lis plus lentement, oui, mais c'est la compréhension du texte, ça va pas rentrer dans ma tête qu'est-ce que j'ai lu, puis j'ai pas la compréhension des textes, je l'ai pas du tout.
Souvent, la façon qu'ils apprennent, c'est par découpage, donc de comprendre, de lire un mot, ça va, mais de l'associer au reste de la phrase, c'est là que ça devient plus compliqué, c'est vraiment très segmenté comme lecture, fait que le sens, à la fin, on l'a pas toujours. Donc, elle a une idée globale de, oui, bon, il y avait un chat, il y avait une dame, mais l'idée générale du texte, n'est pas souvent compréhensible.
OK. Donc, on parle pas de les B deviennent les P ou...
Ben, aussi. Il y a ça aussi. Oui. Moi, c'est les deux et les nœuds que j'inverse.
Mais pourtant, visuellement, c'est pas comme si on était le P,
non,
le Q
non,
ou
sais,
le B,
je sais pas
B,
pourquoi,
D.
Mais même quand je le lis, pour moi, ça, c'est correct. Puis je vois pas qu'il y a l'erreur.
Vous êtes allée dans une école spécialisée, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Oui, je suis allée à Vanguard, puis c'est ça, là-bas, c'est bien parce qu'ils nous apprennent à trouver nos difficultés, puis ensuite voir nos difficultés, ils sont où, donc moi, avec les deux et les nœuds, donc vraiment les repérer dans mes textes et tout, puis savoir, avoir en tête que je sais que c'est ça mon erreur, donc il faut que j'aille voir pour vraiment, si je veux bien corriger mes textes et tout.
Maintenant que vous avez gradué, félicitations,
merci.
C'est le fun. C'est quoi les défis de tous les jours?
Ben, je dirais que mes défis sont vraiment pas pareils qu'avant que j'aille à Vanguard, parce que maintenant, ben, je suis au cégep, donc quelque chose que j'aurais peut-être jamais pu réussir si j'étais pas allée à cette école-là.
Là, c'est un cégep normal.
Et c'est ça, je suis au cégep régulier, comme tout le monde. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai des petits avantages que d'autres ont pas. J'ai quand même plus de temps, puis je suis isolée dans un petit local pour des examens, mais sinon, là, je suis la même formation que tout le monde. Moi, je suis en train d'aller dans un domaine où je vais avoir beaucoup à écrire, des courriels et tout. Donc, pas que je suis désavantagée, mais c'est sûr que ça va être difficile pour moi à tous les jours, mais que je connais mes difficultés, donc il faut vraiment que je fasse attention. Mais moi, je m'assure tout le temps que dans une entrevue, je le dis. Je suis dyslexique pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises après et tout. Et comme ça, ils savent que je vais pas faire exprès puis tout. Ils savent que j'ai besoin un peu plus de temps et que je vais avoir certaines difficultés que d'autres n'ont pas.
Fait que vous foncez, vous vous êtes pas dit, moi, je vais pas oser aller dans certains métiers, certaines professions parce que je suis dyslexique. Non.
Non, j'ai essayé plein de domaines. Puis c'est pas le côté de ma dyslexie qui a fait que ça n'a pas marché. C'est d'autres aspects. Donc, ça m'a vraiment reculé devant rien.
Mais merci beaucoup, c'est vraiment gentil, c'est le fun, une belle discussion comme ça, mère-fille.
Mais ça nous a fait plaisir, vraiment.
Merci à vous.
Nous avons entendu le vox pop de Annick Fillon qui à propos de la dyslexie. Et justement, j'ai entendu le premier intervenant, ou du moins la première intervenante, parlait d'un enfant de 22 ans, entre guillemets, qui avait des difficultés à découper et à faire des coloriages, mais c'est une limite dyspraxie, c'est-à-dire en fait cette maladresse qui persiste, ça va avec la dyslexie?
Pas nécessairement, ça peut être deux troubles concomitants. Oui, concomitants, c'est ça. Dans ma formation, j'ai pas appris que les mouvements étaient reliés à la dyslexie. Ça se passe vraiment dans le cerveau. Pas dans les gestes, pas dans les yeux, pas dans les oreilles.
D'accord. Donc, parce que là, il s'agit de gestes fins. Parce qu'il s'agit de découper selon les limites ou de colorier. Donc, c'est quelque chose de fin. C'est un petit peu comme... Enfin, on pourrait se dire aussi que la dyslexie joue sur quelque chose de fin, qui est quand même l'apprentissage de la lecture. Mmh. Enfin, donc, pour vous, ça n'est pas du tout lié. Il peut y avoir les deux en même temps, mais dans ce cas particulier, ce n'est pas une loi.
C'est vrai. Puis, c'est vrai que, par contre, en dysorthographie, on se rend compte que la calligraphie des jeunes est souvent maladroite.
C'est ça.
Mais au niveau du découpage, j'en ai jamais entendu parler.
D'accord. Ensuite, est-ce qu'on a entendu parler de l'ordinateur? Est-ce que cette femme, cette fille qui est dans son cégep et qui tape sur l'ordinateur, est-ce que ça lui règle ses problèmes réellement ou est-ce qu'il y a toujours un petit reste de dyslexie?
Ah, c'est sûr qu'il y a un reste de dyslexie parce que ça ne se traite pas la dyslexie. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas devenir comme la norme. Ce que ça fait, l'ordinateur, c'est que ça compense pour nos difficultés. Ça vient soutenir l'élève, par exemple, dans la prédiction orthographique. Sur votre cellulaire, vous avez probablement écrit les premières lettres d'un mot, puis il y a déjà des suggestions qui ont apparu. C'est un peu ça qu'ils font les logiciels de prédiction orthographique. Ils font aussi la synthèse vocale, où là, l'ordinateur nous relie ce qui a été écrit, puis on peut entendre les confusions. Oui.
C'est intéressant, ça. Puis même, tant qu'à parler d'outils, quels sont les autres recours ou les autres outils technologiques auxquels les parents peuvent avoir accès pour aider leur enfant au travail, à l'école, dans leurs apprentissages?
Bien, il y a des numérisateurs. Ça prend une photo du texte. Il faut le convertir en format Word. Puis il y a des logiciels qui peuvent le lire pour... soutenir les élèves.
Mm-hmm. Ouais. Et en termes de consultation aussi pour les experts dans le monde de la santé, quelles personnes les parents doivent aller consulter?
Les orthophonistes, c'est important. Orthopédagogue pour travailler la rééducation, l'évaluation, on peut la faire aussi, mais l'orthopédagogue ne pourra pas émettre de diagnostic, alors que l'orthophoniste va pouvoir le faire. Mm-hmm. Le neuropsychologue peut aussi émettre un diagnostic, là, okay. Faire une évaluation.
Oui, ça n'empêche pas de faire toutes les professions possibles. Hein. Il faut absolument rassurer les parents parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont des médecins, hein, comme moi, et qui, eux, sont des dyslexiques, mais graves, et qui, en fait, arrivent parfaitement à faire leur métier et ils sont excellents dans leur métier. Ça n'a rien à voir avec quelque chose, avec une incompétence. Ouais, ouais. Ça n'a strictement rien à voir. Je connais même une doyenne de faculté qui est dyslexique et qui lit plus lentement que les autres et qui fait attention à ça, qui prend son temps. Mais en réalité, elle est quand même réussie. Il n'y a aucun problème.
Dès leur plus jeune âge, ces gens-là sont obligés de travailler deux fois plus fort que
c'est
tout
ça.
Le monde.
C'est ce qu'ils disent.
Oui. Puis ça apporte beaucoup au niveau de où ils peuvent se rendre, ça dépend d'eux. Puis maintenant, avec les outils technologiques, puis qu'il y a les moyens autour d'eux, ben ils peuvent s'en sortir assez facilement. Hein.
Mais est-ce que ça doit quand même venir toucher leur estime de soi d'une façon ou d'une autre, surtout un jeune est-ce que l'enfant se rend très vite compte de sa différence ou de sa difficulté comparée aux autres camarades?
Oui, je vous dirais qu'à partir de du milieu de la première année, là, les enfants commencent à savoir mieux lire à peu près au mois de janvier. Là, il y a un décalage qui se forme. Puis d'habitude, là, fin première année, début deuxième, les enfants commencent à se rendre compte au niveau de la lecture qu'il y a une différence avec les autres. Au niveau de l'écriture, ça prend parfois un petit peu plus de temps, mais on ne peut pas cacher ça très longtemps.
Là. Non. Donc, ils ont quand même un chemin à faire à ce niveau-là, personnellement et avec leurs parents, les personnes qui sont autour d'eux, pour ne pas avoir tendance à trop se comparer puis à se croire moins bon ou moins intelligent que les autres.
Mm-hmm, parce qu'il n'y a rien à voir avec l'intelligence, la dyslexie, c'est important de le dire. C'est vraiment que le cerveau prend un autre chemin pour lire, puis ce chemin-là, il est plus difficile. Mm-hmm. Oui.
Et est-ce qu'on entend souvent parler, en... là vous dites que donc un enfant qui est dyslexique va avoir besoin de plus de temps pour apprendre à lire, à écrire. Est-ce que c'est bien de surstimuler son enfant? Hein, aujourd'hui, des parents inscrivent leurs enfants à des tonnes d'activités dans la semaine. Est-ce que, selon vous, c'est bien ou pas?
Bien, je pense que ça peut mettre beaucoup de pression sur l'enfant. Il faut faire attention pour bien doser. Il faut faire attention pour... L'important, c'est de cibler les difficultés pour intervenir d'une façon très pointue. Ça ne sert à rien de commencer à faire plein d'interventions, le surcharger d'interventions parce qu'il ne pourra pas avancer plus vite que ses capacités. Il faut faire attention pour bien doser.
Il mm-hmm.
ne faut pas lui donner de cours particuliers.
Ah oui, ça c'est bien, les cours particuliers.
Ah, bien!
Mais peut-être pas 4 fois par semaine.
C'est ça, pas tous les jours.
Comme, ouais. comme dans toute chose, il y a un bon équilibre à aller trouver. Puis je pense que c'est important de rester à l'écoute, tout simplement, des besoins et du rythme de son enfant.
Oui.
Ben écoutez, Annie Tessier, merci beaucoup d'être venue nous voir en studio. Et j'en profite pour rappeler le titre de votre livre qui est « Dyslexie et dysorthographie, la boîte à outils » paru aux éditions de Mortagne, un livre plein de ressources.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
L-A-E dans T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces 8 lettres-là. L, A, E dans la T, T, A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L, A, E dans la T, T, A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L, A, E dans la T, T, A. Ma raison en définitive se perd dans ces 8 lettres-là. L, A, E dans la T, T, A.
Bonjour Catherine Bourderon.
Bonjour à tous.
Catherine Bourderon, recherchiste, chroniqueuse, va aujourd'hui nous donner son avis et son ressenti sur un livre, S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même.
C'est vrai, j'aime beaucoup parler de psychologie, de croissance personnelle. Alors dans son livre « S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même » aux éditions Bellevaux, Christine Neff, en fait c'est une traduction, c'est une anglophone, elle habite aux États-Unis. Elle nous enseigne, elle enseigne la psychologie à l'Université de Texas de Austin et nous montre comment on se voit petit à petit sous un meilleur jour grâce à l'autocompassion. Elle relate, au lieu de nous reprocher nos erreurs et nos échecs, il est possible d'utiliser la souffrance dont ils sont la cause pour attendrir notre cœur, nous détourner de ce désir de perfection irréaliste et si frustrant et ouvrir la porte à un contentement réel et durable. Cela simplement en nous accordant de la compassion nécessaire au moment voulu. Voici l'exercice qu'elle propose. Par exemple, dans son livre, parce qu'il y a plein d'exercices qui sont bons pour l'âme et remonter l'estime de soi. Et donc, à travers les lectures, elle dit « Rédiger une lettre à une amie. Tout en rédigeant cette lettre, essayez d'imprégner son contenu de la sollicitude de votre amie, de son acceptation totale de l'autre, de sa compassion et de son désir de vous voir heureuse et en bonne santé. Votre lettre terminée, relisez-la en laissant chaque mot vous pénétrer, puis sentez la compassion vous envahir, vous calmer et vous réconforter. Selon elle, l'autocompassion renforce les aspects positifs comme la joie et l'optimisme parce qu'il vous fortifie intérieurement. Avoir de l'autocompassion, c'est comme prendre un vol direct vers l'estime de soi. Alors, nous pouvons lire dans son livre aussi qu'un tiers à 50% du degré d'angoisse et de dépression des sujets, lorsqu'ils ont de l'autocompassion, ben, ça va beaucoup mieux et les symptômes diminuent. Mmh. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, sur un point de vue médical, il est pertinent de mentionner aussi que l'autocompassion active l'oxytocine. Oxytocine. Alors ça, donc c'est ça, ça active l'oxytocine. Cette oxytocine, on se rappelle, c'est souvent dans les rapports amoureux, avec une maman ours et son ourson, une maman avec son... Les animaux ont ça, hein. Donc c'est dans les rapports sexuels que ça augmente l'ocytocine. Donc, ocytocine, autocompassion, tout ça, c'est le même vocabulaire. François, vous, est-ce que vous trouvez que dans notre société, nous parlons assez de compassion? Est-ce que vous trouvez qu'on parle peu d'autocompassion? Pourquoi, selon vous?
Parce que l'autocompassion est souvent confondue avec l'auto-apitoiement. L'autocompassion, c'est une preuve de l'amour qu'on a pour soi-même et de son propre auto-acceptation. Au fond, on pourrait appeler l'autocompassion une manifestation de l'auto-acceptation, finalement parce qu'on s'aime suffisamment bien. Pour avoir de l'autocompassion efficace et non pas de l'auto-apitoiement, il faut s'aimer soi-même déjà.
En lisant ce livre, honnêtement, j'ai senti que c'est quelque chose que nous pourrions intégrer davantage dans notre démarche. Parce que c'est vrai qu'on s'auto-flagelle. Sur une note plus humoristique, si je me dis à chaque jour, je suis belle et intelligente, chaque jour devant le miroir, est-ce que vous croyez que quelqu'un va me croire?
Ça, c'est de la publicité, ça. Hein?
On est à la radio, personne ne peut le constater.
Mais en fait c'est presque une pensée magique. En réalité, si on peut s'aimer, si on s'aime suffisamment, c'est là que les autres vont vous trouver belle et intelligente.
Même si c'est pas vrai?
Évidemment, ça n'a rien à voir.
Alors, je vais relire le livre. Je rappelle Christine Neff, S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même, aux éditions Bellefond. Merci.
Merci Catherine.
Merci Catherine.
Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. François Baruel et moi-même, Camille Chai, sommes au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. Et juste avant d'aller à la rencontre de notre deuxième invité, voici le coup de gueule de Myriam Daguzan-Bernier qui s'intitule « La performance ».
Ah, j'ai pas le temps, désolée. Je suis tellement dans le jus, c'est fou. J'ai trop de boulot, je pourrais pas y aller. Vous connaissez bien cette rengaine, je la connais aussi, on la connaît tous. Ces phrases qu'on balance rapidement à la personne devant nous pour expliquer que, ben, on n'a pas le temps. De rien. À peine le temps de manger, de faire son lavage, de lire, d'écouter la télé, de se nourrir. On est constamment à bout de souffle. C'est Aurélie Langteau qui, au micro de l'émission Faites du bruit à ICI Radio-Canada, expliquait récemment que plus on glorifie la productivité, plus ça vient amener de l'eau au moulin de la méritocratie. Ce que ça veut dire, en quelque sorte, c'est que plus on met de l'avant l'idée de performance et le fait qu'il faut être efficace en tout temps, plus on donne l'impression que pour réussir dans la vie, pour mériter sa place dans la société, il faut travailler sans arrêt, être impliqué dans tout, parfois même jusqu'à l'épuisement. D'ailleurs, dans la dernière année, des tas de gens autour de moi sont tombés, incapables de poursuivre ce rythme effréné, le corps là, la tête prête à exploser. Arrêt de travail, épuisement professionnel, dépression, anxiété généralisée, stress. Des gens compétents et brillants qui se retrouvent complètement épuisés et vidés. Ça m'est arrivé. Ça peut m'arriver encore. C'est un peu normal. Dans notre société, tout fait en sorte qu'on ressent ce besoin impératif de jongler avec 36 000 occupations en même temps. Il y a le boulot, bien sûr, mais il ne faut pas oublier de s'entraîner, d'être à jour sur les dizaines de séries télé que nous propose Netflix, d'avoir lu le dernier essai en vogue, de connaître la liste de balados que tout le monde devrait avoir écouté sans faute, sans oublier de se faire un menu zéro déchet et vegan. Pensez pas que je juge celles et ceux qui s'y collent. Pas du tout. En fait, je fais partie du problème moi aussi. Mis à part les selfies, je suis impliquée dans tout le reste. J'ai le FOMO, comme on dit, le Fear of Missing Out. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une grande performance sociale dans laquelle on joue tous un rôle. C'est la peur intense, l'anxiété de rater quelque chose, de ne pas être au courant de ce que les autres font, de ne pas avoir été au bon endroit, au bon moment, là où les choses se passaient. Ça s'applique aussi au boulot. La peur de ne pas satisfaire les exigences, de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les informations les plus à jour sur son domaine. Bien sûr, je travaille dans les médias, la pression est probablement encore plus forte. Mais cela dit, beaucoup de gens dans diverses sphères ressentent la même tension. Rentabilité, productivité. On considère maintenant de plus en plus que le travail est l'élément qui devrait donner du sens à nos vies, l'élément qui nous définit comme personnes. Quand on dit qu'on a peu de choses à son horaire côté boulot, une incompréhension s'installe. Mais tu vas faire quoi? Le vide professionnel est mal vu. Il est associé à un vide personnel, à un manque de désirabilité sociale. Ça fait presque pitié quelqu'un qui ne se définit pas par un boulot précis. Saviez-vous par ailleurs que selon le philosophe norvégien Lars Bentzen, spécialiste de la question de l'histoire du travail, il semblerait que dans l'histoire de l'humanité, on travaille maintenant plus que jamais? C'est quand même fou quand on y pense. Oh, et fait intéressant, le mot « travail » vient du latin « tripalium » qui désigne un instrument de torture. Et parlant de souffrance, on voit de plus en plus de compagnies qui, au nom de la fameuse performance et la productivité, se lancent dans la création d'espaces de travail ouverts, les fameuses aires ouvertes. Et ce, même si de nombreuses études font état de problématiques majeures liées à ces configurations qui agissent fort négativement sur la santé mentale des employés. Une amie avouait même il y a peu de temps que c'était une des raisons principales de son récent burn-out. C'est tout dire. Au lieu de prendre les bouchées doubles au travail comme dans la vie et de se rendre malade à en faire trop, et le message s'adresse aussi à moi, est-ce qu'on pourrait pas trouver des solutions pour freiner cette course folle? Je sais, c'est pas nécessairement facile, on y est tous tellement enfoncés. Mais commençons peut-être par arrêter de répondre systématiquement « j'ai pas le temps » pour plutôt se demander « mais pourquoi j'ai pas le temps? » Et qu'est-ce qui est le plus important? On aurait peut-être là une piste de solution pour débuter une réflexion en profondeur sur cette folie qui nous tient. Je dis ça, je dis rien.
Bonjour Edith Saint-Jean Trudel.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne.
Oui.
Vous enseignez au département de psychologie du Cégep de Saint-Jérôme.
Oui.
Et donc, vous vous occupez d'enfants et d'adolescents.
Oui.
Voilà. Et vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « L'automutilation chez l'adolescent et l'adulte jeune aux émissions midi 30 ».
Oui.
Alors, on va tout de suite dans le vif. Qu'est-ce que c'est que l'automutilation? Une petite définition rapide.
Petite définition. Ben, il y a quatre éléments importants à considérer dans la définition qui est assez complexe. Puis je vous dirais que même dans la littérature scientifique, les différents auteurs ne s'entendent pas tous sur la bonne définition de ce qu'est l'automutilation, ce qui va faire varier beaucoup les résultats d'ailleurs.
J'imagine.
Lorsqu'on fait justement des recherches. Bien, les quatre éléments qui sont importants, d'abord, bien, ce sont des actions qui sont intentionnelles, auto-infligées, donc c'est le premier point qui est important. Deuxièmement, à faible atteinte vitale, donc normalement, ce sont des blessures qui ne sont pas fatales pour l'organisme, donc ce sont des blessures qui sont de façon générale superficielles. Le troisième élément, c'est que ça doit soulager une détresse. Et le quatrième, qui est très important aussi, ça doit être socialement inacceptable. Donc, du coup, on va éliminer les tatouages et perçages et ce genre
c'est
de comportement.
Je voulais vous poser la question, justement. Oui. Oui, parce que ça fait voilà. Même pas mal. Sur le moment, ça fait mal les tatouages, mais en oui. Plus, après, c'est fini. Donc...
Oui, voilà, okay. Absolument.
Mais c'est fréquent, ce genre de choses?
L'automutilation, oui, oui. Absolument. Les dernières statistiques vont rapporter une personne sur 10 qui vont utiliser ce type de stratégie-là, je dirais, j'ai appelé ça comme ça, de gestion des émotions. Mmh. Absolument, beaucoup plus fréquent chez les adolescentes, les jeunes adultes. Donc, beaucoup plus chez les femmes, 65% environ, ça va être utilisé par les femmes. Oui.
Oh oui, d'accord. Oui.
Pourquoi? Elles sont j'allais dire, plus à l'écoute de leurs émotions, de leur monde intérieur, ou sans vouloir porter de jugement sur les hommes, mais...
C'est une hypothèse, mais une deuxième hypothèse, ça pourrait être aussi le fait qu'elles consultent plus et elles se confient plus. Donc, possiblement que les statistiques sont un peu biaisées à ce niveau-là. Peut-être que les garçons, les hommes aussi utilisent ce type de comportement-là, mais que c'est moins documenté.
Mais ce sont des hommes, ils n'en parlent pas.
Peut-être aussi, voilà, c'est ça.
Oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'on s'auto-mutile?
Il y a plusieurs raisons. Ce qui est rapporté par la littérature et par les gens qui l'ont utilisé, il y a beaucoup de la gestion des émotions là-dedans. Donc, un peu déplacer une détresse. Beaucoup de jeunes vont dire que c'est beaucoup plus agréable, entre guillemets, d'avoir une détresse physique et de se soulager d'une détresse physique versus une détresse psychologique. C'est aussi plus socialement acceptable que de soigner une blessure physique que de soigner une blessure psychologique. Donc, il y a cette espèce de transfert-là. Puis, on peut aussi considérer l'endorphine qui est sécrétée lors d'une blessure qui va un peu engourdir la détresse de façon générale. Donc, il y a cette espèce de sentiment de bien-être-là qui va être généré par l'endorphine.
Est-ce qu'on peut parler d'un petit suicide à minima?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différences entre une intention suicidaire et une automutilation.
C'est sûr que le suicide d'intention, c'est définitif.
Voilà. Alors que l'automutilation, c'est une solution qui est temporaire et c'est vraiment ce qui est rapporté par les gens qui vont l'utiliser. Donc, ils le savent et ils le disent, je veux temporairement soulager ma détresse. Donc, alors que, comme vous le dites, la mort, c'est une finalité. Oui, voilà. Oui,
évidemment. Et donc, il n'y a pas de... Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'automutiler? Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce qu'il y a des automutilations plus ou moins graves? Parce que j'imagine qu'on peut se gratter jusqu'au sang, oui. On peut prendre son compas. J'avais rencontré justement un garçon qui avec son compas, c'était atroce, oui. Sur le bras, il disait simplement pour s'endurcir à la douleur. Mais ça, c'était une automutilation. Mais il y a peut-être d'autres choses qui sont peut-être même pires, non?
Ce sont les plus fréquentes, les coupures, effectivement, avec ciseaux, compas, exacto, même des feuilles de papier. Ce sont les types d'automutilation les plus fréquents, mais il peut y avoir aussi des brûlures. Mais de façon générale, ça reste superficiel comme type de blessure.
Ça laisse pas cicatrices, finalement.
Oui, il peut y avoir des cicatrices, surtout que la région qui est le plus souvent fait, ce sont les mains, les poignets, les avant-bras.
Et les bras, le ventre.
Le ventre aussi, mais moins fréquent. C'est souvent plus apparent, oui.
Ah oui, c'est quand même apparent. Oui. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'envie de le montrer.
De le montrer. Justement, c'est une deuxième fonction, je dirais, de l'automutilation. Oui. C'est un moyen d'expression aussi.
Mais pourtant, souvent, ils le cachent.
Oui, ça dépend. En fait, ils peuvent le cacher en public, mais moins à la maison, parce qu'ils veulent peut-être passer un message aux parents, par exemple. Sûr. Mais moins à l'école. Ils veulent pas que les enseignants, les amis s'en rendent compte, mais à la maison, oui. Donc, ça dépend. Ouais.
En général, qu'est-ce qui va déclencher l'envie de s'automutiler? C'est quoi les déclencheurs fréquents?
Ce sont des automutilations qu'on va décrire comme étant très impulsifs, donc c'est sur le coup du moment. Il y a un déclencheur qui arrive. Ça peut être une rupture, ça peut être une mauvaise note à l'école, ça peut être un conflit avec un parent, un ami, ça peut être vraiment de tout ordre. Donc, il y a un déclencheur, il y a la détresse qui augmente, et puis là, tout à coup, il y a cette impulsion de se faire du mal, puis qui ça va. Et puis là, c'est un cercle vicieux, là, la détresse, elle est soulagée temporairement, puis là, il s'agit que le déclencheur revienne à un autre moment, puis pouf, on reprend encore le scénario.
Donc, il y a plusieurs sortes d'automutilation.
Oui.
Il y a de la mutilation, donc, par impulsion.
Oui, c'est le type d'automutilation qui est traité dans le livre, mais effectivement, il y en a trois grandes catégories, si vous voulez. Il y a les automutilations qu'on appelle majeures, comme la castration ou l'amputation, mais là, on est plus dans un registre de psychose.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Il y a l'autre type qui est stéréotypique. Le fait de se cogner, de se mordre, on va plus voir dans des cas de déficience intellectuelle ou de spectre de l'autisme. Donc, c'est pas ça non plus. Impulsif, c'est vraiment épisodique. Donc, c'est un peu, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut utiliser ça. On n'est pas dans un trouble de santé mentale. Donc, des gens sans trouble psychiatrique peuvent s'adonner à l'automutilation. On est plus dans un symptôme qu'un trouble à proprement parler.
Et les automutilations compulsives?
Oui.
C'est donc différent des impulsives, justement.
Effectivement.
C'est plus régulier.
C'est tout aussi superficiel, mais plus régulier. À titre d'exemple, se ronger les ongles, s'arracher les cheveux dans le cas de la trichotillomanie, par exemple, s'arracher des peaux, des morceaux de peau, ça aussi, ça peut être considéré comme de l'automutilation, mais c'est différent. Ce n'est pas impulsif, c'est plus ritualisé.
C'est ça, c'est un rite.
Mais c'est aussi très fréquent. Dans une journée, là, les gens vont s'y adonner à plusieurs reprises.
Je me souviens qu'il y avait un cercle, quand on regarde le schéma du cerveau, il y a un cercle, c'est-à-dire que la main est tout à côté de la bouche, et il y a un cercle qui se fait, une espèce de boucle de réflexion qui fait que lorsqu'on suce son pouce ou bien lorsqu'on se ronge les ongles, ça permet de mettre en dehors du circuit toutes les autres pensées qui peuvent être désagréables.
Absolument.
C'est ça en fait. C'est ça, le compulsif, c'est ça en réalité.
Oui, d'où le soulagement.
D'où le soulagement immédiat. Oui,
absolument.
Ouais, bien sûr.
Allons-nous soulager en écoutant une petite chanson et on revient à tout de suite après.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Après cette chanson de Johnny Cash, fort à propos,
oui.
Nous sommes de retour avec Edith Saint-Jean-Trudel à propos de l'automutilation. Je voulais poser la question, à quel âge s'automutile-t-on?
Surtout à l'adolescence et jeune adulte, mais vraiment à l'adolescence particulièrement.
Bon, et c'est dû à quoi? Il y a un effet d'entraînement, de mode?
Absolument. Il y a un effet d'entraînement. En fait, je vous donne cette statistique-là qui m'avait beaucoup impressionnée lors de ma recherche. Mais en 2006, donc ça date quand même un peu, il y avait au-dessus de 500 sites Internet qui traitaient de l'automutilation. Et quand je parle de traiter l'automutilation, ça peut être même des conseils sur comment s'automutiler, des vidéos de jeunes qui s'automutilent. Donc oui, il y a cet effet d'entraînement, sachant que les adolescents sont Ben, c'est la partie de la population qui sont le plus sur les réseaux sociaux. Toute leur socialisation passe par là. Mais donc, oui, il y a ça.
Mais cette mode, elle vient de... c'est dans la classe ou c'est Internet qui fait ça?
C'est un peu des deux. Il y a les médias, même aussi. On voit de plus en plus de vedettes dans certaines séries, films. Beaucoup d'acteurs, d'actrices qui vont révéler qu'ils se sont déjà automutilés. Puis on sait que les jeunes ont tendance à idolâtrer beaucoup ces personnes-là. Puis aussi le fait de l'adolescence à proprement parler, cette période de développement-là. Où
identité.
Identité, on est à la recherche de soi et très impulsif à la base. Donc, les lobes frontaux sont encore très immatures. Hein, donc, l'inhibition n'est pas encore tout à fait installée. Voilà. Donc, cette impulsivité-là et les réseaux sociaux, tout ça, là, ça fait un beau
mélange.
Voilà, pour rendre l'automutilation propice à cet âge, oui.
Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les signes qu'un enfant ou un adolescent va s'automutiler ou est en train de le faire, s'il le cache ou...
Oui. Ben, d'abord, c'est tout changement de comportement. Donc, les parents, vous connaissez votre jeune mieux que personne. Donc, s'il y a un changement de comportement, surtout plus d'isolement, ou le nombre d'heures sur la tablette ou sur l'ordinateur, donc sur les réseaux sociaux, augmente, ben là, on peut tout de suite se poser des questions. Deuxièmement, si l'autre signal qui est très approprié, c'est le choix des vêtements. Mm-hmm. Surtout, là, c'est la période estivale qui débute. La chaleur va s'installer éventuellement. Donc là, un jeune qui, même lorsqu'il fait 30 degrés à l'extérieur, va quand même choisir de porter des vêtements longs, un chandail long. Là, on peut avoir la puce à l'oreille à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se produit.
Mmh. Et qu'est-ce que peuvent faire les parents dans ce cas-là?
Oui. Premièrement, ne pas paniquer. Donc, si vous voyez que votre jeune s'automutile, ne pas paniquer, ne pas blâmer non plus. Je pense qu'il faut vraiment avoir une position d'ouverture, ne pas ignorer non plus, hein, parce que l'automutilation, j'entends souvent dire des gens qui vont dire « Ah, ben c'est une recherche d'attention ». Non. En fait, oui et non. Mm. Ben oui, possiblement, le jeune est en train de nous signifier quelque chose, il est en train d'envoyer un message, mais c'est jamais négligé, c'est jamais banal, en fait, comme message. Alors, il faut recevoir ça et poser des questions et ouvrir, j'en parle souvent, le canal de communication. Donc, on va voir notre jeune et on essaie de voir ce qui se passe, discuter avec lui. Et si le parent n'est pas en bonne position pour discuter avec son jeune parce qu'il y a des conflits ou le jeune n'est pas réceptif, bien, à ce moment-là, on peut utiliser une tierce personne, donc un professionnel, psychologue, psychoéducateur, un TES à l'école, un oncle, une tante, n'importe qui.
Oui, quand il y a un conflit, la tierce personne est toujours très, très utile. En
voilà.
Vérité,
c'est pas toujours le parent.
Il faut peut-être rassurer aussi les parents. Quand un enfant s'automutile, c'est pas une schizophrénie, c'est pas un déficit intellectuel,
Absolument. C'est pas un trouble psychiatrique, c'est pas un trouble psychologique, ce n'est qu'un comportement et ça peut se produire une seule fois. Et puis c'est terminé, et puis la personne ne va plus jamais le refaire. Là,
moi, ce que je trouve touchant, c'est de savoir que l'enfant a une certaine détresse, il a besoin de parler, il a besoin de sortir de son isolement.
Oui, il faut l'entendre comme ça, un besoin, voilà. C'est donc on va vers lui, puis on entend ce besoin-là.
Et à ce propos, quelle est la prévention?
Oui, bien là, pour la prévention, il y a plusieurs choses à faire. Rapidement, c'est beaucoup en lien avec la gestion des émotions. Hein. Lorsqu'on a une mauvaise gestion des émotions, on peut avoir plus tendance à utiliser l'automutilation comme stratégie d'adaptation à des événements de la vie. Donc là, si on apprend à nos jeunes à bien gérer nos émotions, donc ça peut être par des activités de relaxation, ça peut être en nommant l'émotion, même en faisant du modeling en tant que parent. Alors, quand eux-mêmes vivent des émotions, comment ils les expriment, comment ils les gèrent, ça, c'est très, très, très utile au sein de la famille pour prévenir.
Oui. Avant de parler d'un autre sujet que nous avons vu et que nous a donné notre recherchiste qui est passionnant, je rappelle que votre livre s'appelle « L'automutilation chez l'adolescent et l'adulte jeune » aux éditions Midi 30. Et je voudrais savoir maintenant, c'est à ce propos, on a vu, vous avez eu un interview à propos des sextos.
Oui.
Des sextage.
Oui.
C'est, tout le monde en parle, c'est tabou.
Oui,
et apparemment, c'est extrêmement banal.
Très, très fréquent.
Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Écoutez, j'ai tendance à normaliser beaucoup ce comportement-là parce que vous avez raison, c'est très populaire, c'est très fréquent. Donc, ce sont des messages textes que les jeunes s'envoient entre eux, mais à connotation sexuelle. Et je vous dirais que c'est la nouvelle façon d'exprimer sa sexualité, surtout pour les adolescents qui ne peuvent pas se côtoyer ou se voir très fréquemment avec l'école, les parents, etc. Et ils ont une sexualité à vivre quand même et ça va passer souvent par ce médium-là et qui peut être très sain et se faire d'une belle façon.
Donc, ça ne veut pas dire que c'est une perversion quelconque?
Pas du tout.
Pas du tout.
Sauf qu'il faut encadrer tout de même.
Comment ça?
Ça peut être dangereux, par exemple, si on envoie des photos de nus sur Internet. On sait que même d'en faire la demande, ça peut être très dangereux. Comme on dit, ça se répand tellement vite sur le web. Donc, il faut quand même sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Mais si ça se tient à des messages érotiques, intimes, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
D'accord. Il y a une pression importante quand même là-dessus. Hein,
je pense, ce que ma recherche a révélé, c'est qu'on a sensibilisé beaucoup les jeunes filles, entre autres, à ne pas envoyer des photos d'elles nues, etc., ou des vidéos. Mais on a très peu sensibilisé les garçons à ne pas en demander. Donc, ce qu'on observe, c'est que les filles ont arrêté d'en envoyer, ou en tout cas, ça a diminué, mais les garçons, eux, n'ont pas arrêté d'en demander. Donc, ça ajoute une pression encore plus sur les filles. Donc, il faudrait sensibiliser les garçons davantage.
Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant d'avoir beaucoup de questions à nous poser. Merci beaucoup, Edith Saint-Jean-Trudel. Je rappelle l'automutilation chez l'adolescent et l'adulte jeune aux éditions Midi 30.
C'est un grand plaisir.
Merci beaucoup. Alors Camille, c'est à ton tour, on attend tous ton billet qui est toujours aussi poétique et toujours aussi sage.
Ah, c'est gentil François, puis j'en profite aussi pour signifier à nos auditeurs que Edith Saint-Jean-Trudel est toujours avec nous en studio, donc on est les trois à en discuter. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du lien fraternel qu'on peut avoir mais quand on a un handicap. Donc évidemment, je me réfère encore une fois à ma propre expérience de vie, étant née sans bras ni jambe gauche, j'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi. Ils ont leurs deux bras et leurs deux jambes, bon. Et tout ça pour dire que pour moi, le lien familial est très important. Et le fait que je sois la sœur aînée, même si je suis handicapée, mon rôle de grande sœur m'a toujours tenue à cœur. Et je vous dirais que mes parents nous ont les trois élevés d'une façon égale. Et je veux mettre en lumière ici justement le lien avec les frères et sœurs. Je me dis que le fait d'avoir eu un frère, hein, quand on est une fille, ça nous amène un peu à devoir forger notre caractère, apprendre à se défendre ou à, tu sais, dire non ou poser nos limites. Parce que bon, le frère, il est là pour nous taquiner, pour nous agacer. Je dis pas que ça se passe pas entre sœurs aussi. Mais là, en l'occurrence, j'ai une petite anecdote à vous raconter en lien avec mon frère. En fait, c'est un jour où on était donc à l'école secondaire. On allait à la même école et sur l'heure du midi, j'étais donc dans la cafétéria. Je venais de récupérer mon repas chaud dans l'allée centrale de la cafétéria où il y avait une centaine d'étudiants, d'élèves. Et mon frère, en bon frère qu'il était, a décidé de venir taquiner sa grande sœur. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Ben, il m'a fait un croche-pied. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben évidemment, je suis tombée par terre, j'ai échappé mon plat. Sur le moment, c'est sûr que c'était humiliant et frustrant. Mais ce qui me touche aujourd'hui d'en parler avec du recul, je me dis, mon frère a voulu taquiner sa grande sœur, qu'il aimait. Et je me dis, il m'a vu de façon entière. Lui, il me voyait comme sa grande sœur, il savait que j'étais solide, il savait de quoi j'étais capable. Et ce que je trouve beau, c'est qu'il n'a pas cherché à m'épargner du fait que j'étais handicapée plus qu'une autre.
Parce qu'il te voyait exactement comme lui-même se voyait.
Ah ben oui, exactement. Pour moi, quelque part, c'est une situation qui peut être choquante. Mais en fait, je trouve que c'est parfait. Il y a un certain équilibre dans tout ça. Ouais. Parce que... il est le frère qui taquine sa grande sœur. C'est un détail qui lui manque un brin de jambe. Il sait très bien comment on fonctionne entre nous, le lien d'amour qu'on a entre frères et sœurs, quand on dit qui aime bien châtie bien. Donc, c'est un peu ma petite anecdote. Je trouve que justement, le lien fraternel avec nos frères et sœurs, c'est important. Il faut en prendre soin.
Oui, mais ça dépend aussi de ce que toi tu en fais. Parce qu'en réalité, ça aurait pu être pris totalement différemment. C'est parce que tu as justement cette pulsion de vie qui fait que tu l'as pris comme ça. Sinon, oui, ça aurait pu dégénérer.
Oui, c'est vrai, ça aurait pu. Mais ça, c'est beau, François, parce que ça nous prouve à quel point tout est une question d'attitude, tout est une question de choix, de perception. Et oui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, comme je vous dis, moi, sur le moment, oui, j'étais fâchée. Oui, je suis rentrée à la maison, j'ai dit aux parents, « Charlie, il n'est pas allé de pied mort ou de main morte, je ne sais pas quoi. » Mais non, mais avec du recul, c'est ça, je touche juste à le lien que j'ai avec mon frère et le fait que je l'aime d'amour, malgré qu'il y a eu toutes c'est des petites histoires comme ça. Donc, je trouve que la taquinerie entre frères et sœurs, c'est important, ça fait du bien, quoi. C'est bon, ça nous aide à nous forger un caractère aussi.
Tout à fait.
Oui,
voilà. C'est pas toujours facile à vivre.
Non, je pense que c'est pas tout le monde. Hein,
qui a... Et il faut l'apprendre. Il faut apprendre à l'utiliser.
Oui, c'est un apprentissage. Et ouais, j'en profite aussi pour dire, je sais très bien que c'est pas tout le monde qui a des bonnes relations entre frères et sœurs. Tout le monde a son histoire. Mais au final, je termine avec tes mots, François. Hein, c'est tout dépend de ce qu'on en fait nous-mêmes, pour soi-même.
Exactement.
Et voilà, alors c'est ce qui met fin à notre belle émission aujourd'hui. Je remercie les chroniqueurs et toute l'équipe qui travaille sur cette émission. Alors il s'agit d'Annie Tessier, d'Édith Saint-Jean-Trudel, Annick Filion qui est notre vadrouilleuse, Myriam Daguzan, Bernier qui est notre collaboratrice, Catherine Bourderon, notre chroniqueuse et recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté qui est à la mise en onde. Et toi, mon cher François Barbiel, merci infiniment.
Mais merci, ma chère Camille.
C'est toujours un plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour
C'est bon pour la santé.